patria, patriarca, 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 patri, patriarca, patri.
Les miens, pour que le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes, cherche.
A butch, I wanna be a butch, 'cause butch are strong and sensitive. Butch are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight eyes and horns.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille en masculin. Un garçon.
Dégenré, l'émission pour
déranger.
Une émission féministe.
Les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois.
De 18h30
à 20h.
Camarades.
Kaleidoscope.
97 FM.
1h30 de féminisme à fuir.
Camarades. On veut nous éradiquer, nous réduire à néant, nous contraindre et nous restreindre. On nous demande sans cesse d'être moins flasques, moins pendants, moins lourds. Les vendeurs de régime voudraient que nous soyons qu'une fine couche de peau ferme et gracieuse. Ils nous tuent, c'est un génocide. Mais n'oubliez pas que certaines se battent pour notre survie. Elles s'organisent contre la lutte menée avec acharnement à notre encontre. Eh bien, c'est un programme politique que je parle, d'une lutte contre une oppression, d'une norme qui nous écrase. Ne tombons pas dans les pièges qu'on nous tend. Unissons-nous, cessons les divisions entre les bourrelets gracieux et disgracieux, tolérables et intolérables. Le muscle et la fermeté sont bel et bien une classe sociale, une classe qui défend ses privilèges et n'a qu'une ambition, nous tenir serviles, volontaires à notre propre contrainte. Nous ne laisserons pas faire. Stockons toutes les graisses saturées que nous pouvons. Cessons de nous restreindre. Et maintenant, camarades bourrelets, je vous propose d'écouter notre hymne et de chanter ensemble notre émancipation. Camarades bourrelets de tous les replis, unissez-vous. Bonjour, bienvenue sur Dégenré, l'émission pour déranger. L'émission féministe sur Radio Kaleidoscope 97 FM.
Bonjour, alors aujourd'hui on va vous parler un peu du rapport au poids et de la grosseur. Alors cette émission elle vient au départ du constat que dans les archives de Dégenré on n'en trouvait pas d'autres sur la même thématique. Et donc on s'est dit qu'il fallait en faire une et aussi que dans nos milieux la norme physique est encore une norme qui reste bien présente. Donc on est quelques-unes à avoir voulu se réunir pour visibiliser cette thématique, pour aussi pour être moins isolées et pouvoir en parler entre filles qui qui sont grosses, quoi. Et aussi, surtout, pour montrer que c'était politique et que derrière tout ça, il y avait aussi des enjeux de domination.
Alors, on s'est retrouvés tout ensemble pendant un énorme week-end. Et au moment de l'organisation, on a décidé d'organiser ce week-end en plusieurs mixités et non-mixités. Alors, par exemple, on a fait des ateliers en non-mixité grosse. On était une dizaine. On a fait une boom, par contre, en non-mixité meuf gouine trans, parce que la question de poids, c'est une question transversale à plein d'autres questions. Et ensuite, on va faire une écoute collective de cette émission aujourd'hui même, en mixité, parce que, bien sûr, le poids, ça dépasse les questions de genre.
Mais par contre, on s'est trouvé face à quelques petites questions quand on a décidé d'organiser ce week-end. Notamment, on avait décidé de faire passer des invitations pour participer aux ateliers en non-mixité grosse. Et les invitations, ça nous a causé quelques problèmes parce que du coup, c'était difficile un peu d'aborder les filles pour leur dire « Eh, salut, t'es grosse, ça te dit de venir parler avec nous ?» Enfin, on s'est dit que ça pouvait être quand même un petit peu insultant ou en tout cas blessant, quoi. Et moi, je m'en suis particulièrement rendu compte parce qu'il y a quelques mois maintenant, j'ai sorti une brochure qui s'appelle « Un problème de taille » et j'ai vraiment eu l'impression à ce moment-là de changer complètement de rapport à mon poids et à ces questions-là parce que justement... En fait, j'ai eu l'impression de sortir du placard, quoi. Alors du coup, pendant ce week-end, on a beaucoup rigolé autour de cette expression. On s'est dit qu'il y avait des grosses placards et des grosses pas placards. Mais ça a été une vraie problématique de juste de savoir à quel point les filles assumaient leur corps ou voulaient justement le changer. Et on s'est également rendu compte que cette question de rentrer dans les normes physiques et d'être d'une certaine de ce qu'on appelle la beauté, ça entraînait un certain nombre de privilèges et ou en tout cas souvent une certaine aisance aussi dans nos milieux, quoi. Et donc maintenant, on va vous montrer, on va vous faire écouter un petit extrait des discussions qu'on a eues en non-mixité grosse, qu'on en a enregistré un certain nombre et il va notamment y avoir un petit montage sur la thématique des régimes, ainsi que qui sera introduit par la chanson Give Me the Food de Miss Platnum. Si vous avez l'occasion de voir le clip, il est génial.
You know, people always say women should be thin, they should be on diet. But I don't care, I just enjoy eating. I like my coffee with a lot of cream. I like to eat late at night. I like scrambled eggs after a sweet dream. I like potatoes deep fried. I like some sugar in my lemonade. I like hot chicken wings and steak. I like thick cheesecake but homemade. I like a long lasting lunch break. Give me the food, I say give me the food. Opa! Give me no fruit if you love me. Think
this chick's a little big.
Slim girls don't understand, but I don't care. Some guys may say
it's her curves that I deserve.
They like the tight pants that I wear. I am Romanian, I love to eat. It's in my genes, I can't control. Look at my curvaceous cousins, models can't compete. I am a woman, no skinny doll. Give me the food, I say give me the food.
Opa!
Give me no fruit if you love. Should only eat yogurt and strawberries. They say a lot of things, but you know,
I don't care what people say about my weight. So if you want to take me out for a date, make sure there is enough food for
Ouais, et comme ça, j'ai une pote, elle est grossophobe. Mais dans le sens où, en fait, ben, les gros, ils participent à fond à la surconsommation et tout ça, machin, et elle aime pas les gros pour ça, quoi. Bah, ou en fait, elle les juge hyper facilement sur le truc, en fait, ben ouais, ils bouffent deux fois plus que les autres, quoi.
Putain, wow. Moi, il se passe un truc assez dramatique dans ma vie, c'est que quand j'étais ado, avec ma meilleure amie, on se faisait des purs goûters de ouf, c'était trop la fête, on mangeait 10 000 tartines, c'était génial, quoi. Et un peu plus tard, elle est devenue anorexique vraiment grave, et où sa mère, elle est venue et elle m'a accusée en me disant « c'est parce que toi, t'as un problème avec la bouffe que ma fille, elle est devenue anorexique. »
Quand j'étais anorexique, j'avais une espèce de grosse fierté de maîtrise de mon corps, là, en fait, j'étais trop fière. J'avais pas vraiment l'impression que je me prenais en main et tout, et du coup, les gros,
Tu les méprisais.
Bah ouais. Ils y arrivaient pas, quoi.
Mais il y a vachement ce truc de manque de volonté.
Ouais.
Ah bah, ouais, voilà. Moi, hyper souvent, je me dis que j'ai pas de volonté, parce que j'ai pas de volonté. Qu'il y a plein de trucs auxquels j'arrive pas à me tenir, et que des fois je me fixe des espèces d'objectifs, genre, bon, demain tu vas à la CAF. Non, en fait, demain. Non, puis demain.
Ouais.
Enfin, des trucs comme ça, et où pendant hyper longtemps, j'ai ramené ce truc au fait de, bah, j'ai tellement pas de volonté que j'arrive même pas à maigrir. Et j'arrive pas à m'astreindre à une hygiène de vie qui me permette de perdre les, je sais pas où j'en suis, mais peut-être les 40 kilos dont j'ai besoin. Et que le manque de volonté entraîne le manque de volonté, forcément, pour si tu commences à pouvoir à gérer des trucs, enfin, à avoir de la volonté pour des trucs, et qu'après t'en as pas pour d'autres, tu culpabilises d'autant plus.
Pour moi, ça veut rien dire, parce que volonté, ça veut dire vouloir. Du coup, pas de volonté, en vrai, ça veut dire pas avoir envie.
Mais tu peux avoir envie sans avoir envie. Tu peux avoir envie de maigrir et pas avoir envie de le faire
maigrir. Là, maintenant, tout de suite, ne pas manger ce gâteau.
Bah ouais, mais pour moi, ça veut dire qu'en vrai, t'as pas envie de maigrir.
C'est pas forcément.
Tu peux avoir envie d'un truc, mais pas de faire des trucs hyper chiants pour que ça,
bah ouais,
que ça soit le cas, quoi.
Et ben moi, j'ai l'impression qu'en vrai, je veux pas, mais que l'envie, c'est une volonté de me conformer à une norme sociale ou je sais pas quoi, ou une obligation à intégrer. Et du coup, quand, en fait, si je vais bouffer compulsivement quand je crois que j'ai envie de maigrir, en vrai, j'ai pas envie de maigrir.
Et je crois que, en fait, ce qu'on entend par manque de volonté, c'est le truc de là, c'est volonté, c'est genre se tenir à un truc que t'aurais défini qui serait bien, avec un grand B, tu vois.
Mm-hmm.
C'est ça qu'on veut dire, non? C'est pas tellement volonté dans le sens de vouloir.
C'est justement d'avoir une maîtrise de soi.
Ouais.
Et moi, je suis pas d'accord, hein. Enfin, sur ce truc-là. Enfin, par exemple, tu disais des verbes pronominales, se maîtriser, se je sais pas quoi. Et ça veut dire que tu te divises en deux et avec un qui agit sur l'autre, là.
Bah,
je sais pas comment dire. Mais moi, j'ai envie d'être dans une dynamique de me rassembler. Et du coup, que si j'obéis pas aux ordres que je me donne, c'est que j'ai pas envie.
Enfin, il n'y a pas les normes sociales qui nous appuient sur nous et nous qui sommes contre les normes sociales. C'est un truc qui s'intercroise. Je sais pas comment dire, enfin, c'est ce truc-là, vu qu'en fait on s'est construit là-dedans, ben, de fait ça fait partie de nous. On y réfléchit rationnellement, tout ça, machin, on aimerait que ça soit pas le cas, mais en fait c'est le cas.
Il y a toujours le poids de la névrose, quoi.
Il y a toujours tous ces petits trucs qui te font taré, quoi. Je sais pas, en fait, tous ces trucs... Ils sont complètement intégrés de manger trop c'est pas bien, manger un Kinder c'est pas bien, et où du coup quand tu te rends compte que tu le fais, t'as quand même un truc de déception, même si au final tu te dis je m'en fous.
Parce que moi j'ai jamais fait des régimes par exemple. J'ai toujours été dans un truc de faire attention. En fait c'est ça, ce truc là.
Et faire attention, mais ton idée c'était de pas plus grossir ou de mincir ou
De mincir je pense.
C'était pas si difficile.
De mincir.
Je pense qu'il y a surtout une année de ma vie où j'ai voulu manger moins et maigrir. Enfin, où je l'ai fait vraiment. Et un truc d'habiter toute seule et du coup de pas avoir le regard des autres. Je pouvais arrêter de manger si je voulais, on n'allait pas me regarder. Je pense que dans la famille, il n'y avait pas ce truc que le régime c'est mal, mais qu'il faut pas faire des régimes draconiens. Mais fallait pas trop manger et fallait maigrir quand même, quoi. Ou fallait pas grossir en plus en tout cas. Et il y avait toujours un truc de regard et de commentaire sur ce que je faisais. Et du coup, quand j'habitais toute seule, et ben, j'ai pu le faire. De pouvoir arrêter de manger tout et ce truc de contrôle, je le ressentais vachement, quoi. Et c'était hyper dur, j'en ai vraiment chié, et je me disais, oh là là, mais laisse tomber, si je reprends les kilos que j'ai perdus, je vais grave déprimer, quoi.
Moi, c'était l'échec, hein, quand j'ai repris ces kilos. Du coup, cet été-là où j'ai perdu 20 kilos, c'était le plus gros régime. Et je me souviens, après, je disais à ma mère, oh là, mais plus jamais, hein. Plus jamais je fais plus de 60 kilos. Enfin, genre, c'était l'enfer. Et j'étais trop soulagée de plus les faire, quoi. Et puis, en fait, je les ai repris. Et du coup, c'était l'échec quotidien. Genre, je mangeais une pizza, je savais que j'allais prendre 1 kilo. J'étais hyper triste, je le faisais quand même, quoi. Du coup, j'ai arrêté de fumer pour compenser et avoir pas trop honte de moi.
Bah, les périodes où je mange, j'ai grossi et machin, par exemple, j'ai plus de libido que les périodes où j'étais toute mince et je contrôlais à mettre plein de trucs. Et... Enfin, j'étais toute mince, j'ai jamais été toute mince.
Et vous avez vomi?
Par choix?
Oui.
Ouais. L'année où tu faisais de l'origine
ou... Ouais.
Je rentrais de la fac, je faisais une bonne crise de boulimie, après je vomissais. Ce qui est pas très pratique parce que j'habitais en chambre crousse avec les cheveux communs, tout ça.
Tu veux dire que boulimie et CTU font pas bon ménage?
Non. Mais tu vois, par exemple, la pote en question dont je parlais tout à l'heure qui fait ça, elle, souvent, après les repas, elle a un truc à faire. Donc elle se casse. Et au début, personne, enfin, on n'a pas percuté tout. Et puis je l'ai pas outé. Enfin, moi, j'ai compris, mais enfin, tu vois, c'est son histoire, je veux pas non plus.
Pour survomir, en fait, moi, quand j'ai commencé à savoir qu'il y avait des anorexiques, je me suis dit, putain, je devrais vomir, ce serait vachement plus simple, après je suis réponse. Du coup, j'ai essayé de me forcer à vomir, en fait, ça marchait pas, parce que c'était désagréable, et qu'en fait, bouffer, c'était agréable. Et donc, j'ai essayé d'arrêter de manger, ça n'a pas marché, j'ai essayé de vomir, ça n'a pas marché. Du coup, je me suis relevée la nuit pour manger du fromage en plus. Qu'est-ce qu'on peut voir?
Mais moi, j'avais ma mère anorexique à la maison. Genre, elle a commencé à arrêter de manger, j'avais une dizaine d'années, un truc comme ça. Et je pense que ça m'a bien soignée d'avoir vu en fait ma mère hyper maigre avec cette de tension sur le canapé toute la journée à juste péter les plombs et à se nourrir de Xanax. Et ben du coup, je pense que ça m'a fait vraiment un truc de... D'un côté de me dire, oh là là, quand même, ça a l'air simple pour elle et puis en plus elle peut plus rien faire de la journée. Super. Et d'un autre côté, me dire... Ouais, mais en fait, elle perd ses dents, elle perd ses cheveux. Ça fait peur, quand même, vachement. Et d'avoir, du coup, super peur de ça. Et de m'être dit, à des moments, que du coup, peut-être, se faire vomir, c'était plus simple qu'arrêter de manger. Peut-être plus sain. Et après, bon.
Moi, ma mère, elle a aussi un truc... Je pense, au niveau morphologie, je suis vraiment comme ma mère. Et encore, elle était plus mince à mon âge, quoi. Mais et du coup, elle est vraiment dans un truc de qu'on se surveille. Et quand j'étais ado, c'était on se surveillait tous les deux, quoi. Et elle disait, mais parce qu'en fait, les kilos que tu prends maintenant, en fait, tu les perdras pas, quoi.
Parce que moi, c'était vraiment genre avant ta puberté. À la puberté, ça fixe les kilos. Mmh. Du coup, il faut que tu maigrisses avant, quoi.
Ouais, sauf que moi, en fait, j'ai eu une puberté hyper tôt.
Et moi, c'était horrible parce que je me disais, le jour où j'ai mes règles, c'est mon poids pour toute ma vie, quoi. Du coup, je faisais 50 kilos en attendant mes règles comme ça, quoi. Moi, j'avais 15 ans et du coup, j'ai fait des régimes à partir de 10 ans, un truc comme ça. Parce qu'il fallait absolument que je sois mince avant d'être pubère.
C'était plus la taille.
Il y avait juste deux cas.
À partir du moment où j'ai eu mes règles, j'ai arrêté de grandir.
Oui. Bah, moi, je faisais 50 kilos quand j'ai eu mes règles. Du coup, ça marche peu, quand même.
Ça a retardé tes règles de peu manger de 10 à 15 ans?
Je mangeais pas peu, hein. Je mangeais juste super équilibré et sans féculents. Moi, dans ma tête, j'avais une alimentation assez saine. Bon, il y avait des carences, hein. Mais je sais pas.
Moi, parce que moi, ma mère, elle me disait, c'est qu'il y a moyen, à la puberté, tu grandis un coup et du coup, ça s'allonge là, et du coup, les kilos, ils se répartissent mieux, et en fait, après, t'es normal. Mais je pense que c'est à ce moment-là que j'ai fait le régime à la con, enfin le truc d'anorexie là. Et du coup, je pense que ça a fixé ma taille en fait, enfin ma taille en hauteur, parce que j'ai pas grandi après.
Quand t'es devenue anorexique, après t'as arrêté de grandir?
Ouais, ben je suis pas sûre, mais moi je soupçonne vraiment que c'est ça qui a fait ça.
Parce que ça fait l'anorexie à quel âge?
5e, 13 ans.
Et t'en as fait combien de temps?
Bah quelques mois. Et après. Ma mère, elle m'a emmené chez le médecin, qui m'a engueulé et puis après j'ai mangé.
Ah ouais, t'en es sortie le...
Ah, ouais, voilà. Mais pourtant j'étais bien kéblo là-dedans, hein. Mais je sais pas, pouf, le médecin... Genre je pense qu'on m'a fait sentir, ça craint, là, ça... on va te faire chier si ça continue. Alors qu'avant, on m'avait que renvoyé des trucs hyper valorisants, quoi, mais tout le monde en fait. Les copains de mes parents, les autres. Je pense pendant 2 semaines, j'étais taille normale. Et c'était hyper valorisant. Et puis après, maintenant, j'avais commencé à se dire oh, je voulais pas avoir d'embrouille comme ça, je pense, ça me faisait trop flipper. Ce qu'on fait aux anorexiques. Du coup, j'ai remonté. Du coup, à donf. Enfin, pas tant à donf, mais. Bouffer normal après bouffer rien, bah. T'exploses, quoi. Et c'était super déprimant, ça, les kilos qui reviennent là comme ça hyper vite en fait.
Ça t'a pas fait replonger, entre
guillemets? Non, c'était fichu, quoi. Enfin. Parce qu'en fait, je sais pas, c'est trash quand même les périodes où tu manges vraiment pas, où ta seule préoccupation dans la vie c'est de pas bouffer, de réfléchir à comment tu vas faire pour que ça se voit pas. Et du coup, je pense, quand j'ai arrêté, c'est...
Par exemple, est-ce qu'il y a un truc de déclenchement, un truc qui... Enfin, toi qui a un truc qui a déclenché?
Bah la rentrée scolaire, je me suis réveillée et je me suis dit « Oh, tu te prends en main, cette fois je fais un vrai régime ». Et je sais pas, après en fait j'ai diminué les doses peu à peu. La calorie c'est mal en fait, et du coup plus je pouvais ne pas en manger. Mais non, mais c'est que dès le début aussi, en fait j'ai fait un truc de maîtriser ce que je mangeais pendant une semaine. J'ai vu que j'avais perdu 1 kg en 5 jours. Et après je me suis fait un planning sur de septembre à décembre, avec 1 kg que je devais perdre tous les 5 jours. Et du coup, c'était noté sur mon planning où je devais en être tous les 5 jours. Et du coup, après, il a fallu suivre, sauf qu'il fallait manger de moins en moins.
Moi, c'était un peu pareil. Je crois qu'en fait, je me disais pas plus de 500 grammes par jour quand même, parce que sinon, c'est mauvais pour la santé.
Pas plus de 500 grammes de quoi?
De la perdre. Mais je me pesais tous les jours, parfois 2 fois par jour.
Moi, j'avais une diététicienne qui m'avait conseillé de faire ça, et ça m'a complètement traumatisée. Elle m'avait conseillé de noter ce que je mangeais tous les jours dans le détail. Et j'avais trouvé ça super dur parce que du coup, ça voulait dire que j'allais voir une diététicienne, j'avais un truc genre 10-11 ans, et parce qu'il y avait un truc qui allait pas, et que j'étais pas capable d'être honnête avec un médecin, alors que c'était pour ma santé, quoi. Enfin, ça m'était présenté comme ça, après, maintenant, j'en regarde vachement plus critique sur ce truc-là. Et du coup, c'est un truc hyper culpabilisant. Et du coup, enfin, des trucs comme ça, en fait, de se retrouver à mentir à des gens à qui t'es censé dire les choses pour que ça aille mieux. Mmh. Et où, du coup, c'était particulièrement atroce.
Moi, c'est le truc du contrôle. Je sais que j'ai vu ça aussi une fois. Ça, à un moment, il m'avait envoyé voir une psy. Mais en parallèlement, quand même, je me suis posé un truc sur mon poids et j'étais allée voir une endocrinologue. Et donc, on a fait tous les tests, machin, thyroïde, machin, j'avais rien. Et elle était rentrée dans ce truc-là, de me faire noter tous les jours. Et je sais qu'avant ça, j'étais jamais rentrée dans ce truc de contrôle. Du coup, c'était... c'est ce truc du contrôle. Ben voilà, t'es obligée de mentir. La meuf, elle voulait bien me prendre sous son aile, à condition que... même par rapport à d'autres gens, enfin, je vois la pote qui se fait vomir, par exemple. Elle est obligée de me mentir pour aller vomir. Du coup, ça a des situations aberrantes où on ne peut plus avoir confiance en elle sur plein de trucs, parce qu'on sait qu'à un moment ou un autre... Enfin, voilà. Elle arrive à être dans des situations où elle est obligée de mentir. Moi, je pense que c'est un des trucs qui m'a sauvé la vie depuis 2-3 ans, mais c'est un moment d'assumer le fait que je mangeais beaucoup. Enfin, c'est comme ça. Bah ouais, voilà. Enfin, tu vois, c'était stigmatisé, ce truc de contrôle, de t'apprendre à contrôler ton truc. Et parce que c'est pas normé aussi, et parce que machin. Enfin, moi, je sais que maintenant, mais c'est venu il y a pas si longtemps que ça, tout le temps de ma vie, mais. C'est d'arriver à se dire, bah ouais, t'es gros, et ben, y a d'autres gens qui ont d'autres choses, il y a des gens qui sont hyper autoritaires, il y a des gens qui sont complètement dépressifs, il y a d'autres gens machin. Parce qu'à un moment ou un autre, pour des raisons qui nous appartiennent à chacune, si t'as ce type de comportement, c'est qu'à un moment ou un autre, c'est un truc que t'as trouvé pour t'en sortir. Enfin, je sais pas, quelque part, c'est un truc positif à un moment ou un autre de ta vie. Après, si à un moment ou un autre de ta vie, ça te convient plus, ben, faut le changer. Mais et puis c'est pas facile de changer parce que pour le coup tu t'es bien rentré dans ton trip, quoi. Mais finalement, enfin, moi je suis arrivée à tout ce truc. Moi j'en veux au médecin à rebours sur les trucs de contrôle parce qu'ils m'ont pas aidé à assumer ce truc là, parce qu'ils m'ont pas dit ce que je crois maintenant, c'est qu'à un moment ça m'a aidé. Et moi je pense que c'est un vrai truc. Moi j'étais totalement suicidaire, j'étais totalement machin. En tout cas, bah voilà, c'était les périodes où je mangeais, je me suicidais pas. C'était toujours ça pris. Non, mais tu vois, c'est un truc. Après, c'est pareil, moi je sais que. Après, pour le vrai, mais c'est après, c'est chacun son histoire, hein, mais c'est un truc de survie. Il y a un moment ou un autre, ou pour une raison X ou Y, alors pour moi c'est cette histoire-là, peut-être pour d'autres gens ce sera une autre, mais un moment ou un autre, c'est pas un problème. Donc ça c'est mon histoire personnelle, mais au regard de, si tu retires les normes qu'il faut pas trop manger, qu'il faut pas être gros machin, bah y a pas de problème finalement. Parce que moi j'ai pas souvenir que quand je grossissais, que j'étais plus jeune, ça me posait un problème en tant que tel. Je pense que ça a commencé à me poser un problème le jour où j'en avais plus besoin. Mais c'est qu'après, du coup, moi je pense que ce qui te rend pas bien, c'est déjà les normes et les gens qui te renvoient ça comme étant un problème, ça c'est sûr. Mm-hmm. Et puis c'est même aussi que le fait que toi, du coup, effectivement, c'est ce truc-là, il te convient plus finalement. Mais c'est sauf que c'est ce que tu avais trouvé jusqu'à présent, tu continues, parce que c'est pas facile donc, de modifier complètement un comportement qui t'a paru rassurant pendant longtemps, il faut accepter de quitter ce truc-là, mais.
En tout cas, moi, ce qui m'a parlé dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fait que ça devienne pas un truc honteux, en fait. Parce que, ouais, moi, je vois, à des moments où j'ai pu avoir des problèmes, en fait, je voulais bien que les gens soient là, mais si j'avais l'impression qu'ils s'appropriaient mon problème, ça me faisait un truc honteux, en fait, et du coup, ça m'appartenait plus. Et du coup, j'agissais plus dessus, en fait, je le cachais juste tout. Mais ouais, c'est toujours compliqué de faire signe que t'es là sans.
Moi, ce que ça me fait penser, c'est. C'est considéré comme un problème parce que c'est hors norme. Et du coup, pour pouvoir vivre en dehors d'une norme et vivre relativement bien, il faut l'assumer. Et que si jamais ça fait. Ça, par ailleurs, suscite des problèmes, ou qu'il y a des problèmes qui vont avec, ou que c'est aussi un problème dans sa propre tête. Reconnaître qu'il y a des problèmes avec un truc qu'on assume, c'est compliqué en fait. Vis-à-vis d'autres personnes. Si une personne vient de voir et dit ah, mais alors en fait il y a un problème, et que tu dis non, mais en fait il n'y a pas de problème, je veux assumer et ça va. Et en fait, si il y a un problème, mais c'est hyper dur d'assumer le problème. Ou de le reconnaître quoi. Ouais, j'assume que je suis grosse et voilà, et je vous emmerde, et moi je m'en fous, blablabla, par exemple. Et là, il y a une personne qui vient de voir et qui te dit « Mais en fait, ça se passe pas bien ton rapport à la bouffe. » Et te dire « Non, mais c'est bon, j'ai le droit d'être grosse. Tu viens me voir pourquoi là parce que je suis pas dans la norme et nanana. » Et du coup, envoyer chier la personne parce que pas envie de reconnaître qu'il y a des problèmes avec ce truc-là. Parce que c'est trop dur, quoi.
Oui, c'est clair que moi, j'ai vachement envie de dire que c'est pas lié la quantité que je bouffe avec le fait que je suis grosse. Et du coup, maintenant... Maintenant que j'assume que je suis grosse et genre que je le dis, tout ça, machin, aux copines, et ben, faut pas qu'elles voient que je mange plus qu'elles. Sinon, ça veut dire que je pourrais réduire, quoi. Que je pourrais manger normalement et du coup perdre du poids. Du coup, j'arrêterai de faire chier, quoi. Du coup, moi, je fais l'inverse du. Enfin. Je fais comme ta pote, là. Je mange avant, puis j'arrive et je dis que j'ai pas mangé. Parce que je peux pas dire. Parce qu'on me demande pas ta faim, on me demande t'as déjà mangé. Du coup, la réponse est je veux de ta bouffe, du coup, non. Enfin. Genre, ouais, là, je veux une pleine portion de lasagne, quoi. Oui, j'ai déjà mangé des pâtes avant. Et alors, quoi.
La fille. Tu me passes la margarine pour mes haricots verts, s'il te plaît? La grand-mère. Tu es sûre? Tu veux pas goûter la béchamel? La mère. Ah non! Regard réprobateur. Tu sais comme ça a été dur cette semaine. Une bouchée de ça. Et toute la semaine est foutue en l'air. La grand-mère. Mais ça fait pas grossir, c'est que du lait et de la farine. Faut qu'elle grandisse, cette petite. La mère. Ah, s'il vous plaît, ne vous en mêlez pas. En plus, le week-end dernier, elle était chez son père. Il lui a encore fait manger n'importe quoi. Elle est revenue enflée. Enflée. La grand-mère. Mais elle peut bien faire une exception de temps en temps. C'est pas tous les jours qu'elle est ici. La mère. C'est comme tu veux, mais tu sais que tu vas en reprendre pour une semaine. La mère. Il y a de l'ananas en dessert. Tu en mangeras, ça brûle les graisses. La mère. Et ton Lévis. La fille pense à son nouveau jean dans lequel elle doit rentrer à la fin du mois, si tout va bien. La grand-mère. Béchamel, gras, exception, plaisir. Oh, mais laissez-la tranquille. Enfin, j'ai fait ça avec amour, pauvre petite, Régine, thé, ananas, porridge, bourrelé, gaine. La mère. Objectif, père, bourrelé, gros, grassouillette, ressembler à son père. Regard réprobateur. Je te comprends, je te soutiens. La fille. Silence. Haricot vert. Jean.
Alors voilà, c'était encore un des petits textes qu'on a écrit pendant les ateliers d'écriture pendant ce week-end. On voulait aussi parler des effets qu'a eu ce week-end sur nous et de comment c'était agréable et super encourageant d'être entre grosses, et ça nous a permis d'avoir plein de confiance en nous et notamment ça s'est vu pendant la boum avec des copines qui ont pas trop l'habitude de danser, etc., qui là sont complètement lâchées. Ça a fini par un concours de roulade, des filles qui dansaient le ventre à l'air, etc. C'était super, ça donnait du courage, quoi. Et après, justement, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit: ah, mais vous étiez trop belles, mais vous aviez l'air trop heureuses et tout. Enfin, du coup, c'était vraiment génial comme moment. Ça nous a aussi permis de faire des rencontres et notamment entre grosses où on se croisait et parfois on se connaissait pas bien, ou de faire juste des rencontres de filles qu'on connaissait pas du tout. Et aussi, point assez drôle, c'est qu'on a passé complètement le week-end à faire des blagues de grosses et à tailler le bout de gras, et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui disait c'est gros ou c'est énorme, on ricanait. Et on a notamment appelé nos copines les bandes à Barbie, en disant que bon, les bandes à Barbie, ça va 2 minutes. Hein. Et donc maintenant, un morceau de musique.
Et avant de vous passer la musique, je voudrais vous parler du fait que pendant ce week-end, c'était vraiment génial parce qu'on était donc pendant les ateliers en non-mixité grosse. Et on se faisait faire des petits plats merveilleux par les non-grosses à côté. Et pendant 3 jours, on a mangé. Et c'était vraiment très agréable de pouvoir le faire sans complexe et justement en riant. Et moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien de parler de notre rapport à la nourriture. Parce que c'est quelque chose qui est tabou, dont on parle jamais. Dont moi, personnellement, j'avais jamais parlé avant ce week-end-là. Et du coup, voilà, c'est agréable de manger décomplexé et puis parler du fait que manger, ça nous rassurait, que c'est une occasion à saisir de pouvoir parler de nos rapports à la nourriture. Alors maintenant, on va écouter la chanson du groupe Rara Femme de Port-au-Prince qui s'appelle « Mange ».
Mange. Mange, 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 eat, 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 yeah. Vas-y, mange. Mange, 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 eat, 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 yeah. Vas-y, mange.
Sans trop de sucre,
vas-y mange.
Sans trop de gras, sans trop d'alcool,
on a la forme.
Produits bio ou naturels,
c'est Haïti.
De la cassan au petit matin,
vas-y goûte. Mange, 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 chérie. Vas-y mange.
C'est bon pour la santé,
mange.
Dans la propreté,
mange.
En tenant compte des vitamines,
mange.
Avec des légumes frais,
mange. Mange, 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 chérie. Eat, 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 sweetie, yeah. Vas-y, mange.
C'est moi qui ai cuisiné.
Mange.
Et je mange avec toi.
Mange.
Baby, doudou, mon ange.
Mange.
pas de panique. On mange, on fait du sport, on a des muscles.
Et puis force, beauté et love.
Bien chérie sur l'île. On a des mangues, des ananas.
Bien sucrées.
On a du lambi, des homards.
Bien grillé.
Du royal, du chom-chom. Des épis de maïs.
Bien grillé.
Et bon café.
C'est pas balé.
Et bon café.
C'est pas balé.
Ce week-end, c'était complètement tout à fait émancipateur et si bien que on a décidé de juste pas se lâcher, que juste après ce week-end, on a décidé d'ouvrir un blog qui s'appelle grosse.wordpress.com, grosse au singulier, et qui va être un blog alimenté notamment avec des petits comptes rendus de la rencontre, les textes produits en atelier d'écriture, peut-être qu'on pourra même remettre les montages sons, etc. On écrira des articles, tout ça. Donc bon, pour l'instant le blog est en construction, il est pas très joli et voilà, mais on vous invite à aller le voir plus tard et pourquoi pas à participer là-dessus. Il y a eu un autre appel, il y a eu un appel à contribution aussi d'une copine qui, elle, veut faire une brochure avec des textes de témoignages sur la grosseur, etc. Donc cet appel à contribution est trouvable sur le blog stupidfrog.wordpress.com. Et aussi, on a décidé d'organiser une autre rencontre qui aura lieu plus à l'arrivée des beaux jours. Et aussi, Et aussi, il y aura certainement un moment courant février à Toulouse autour de la grosseur et de la santé. Du coup, voilà, et on va vous lire un nouveau petit texte sur qui a été issu des ateliers d'écriture.
Je suis la lourde, la grasse, l'énorme, la bouboule. Je suis celle qui dépasse, celle qu'on ne peut pas porter. Les bourrelets qui débordent rebondissent et la bave qui dépasse, elle aussi dégouline. La sueur, les odeurs et la peur de t'écraser sous moi, t'étouffer, te coincer, te casser, te contraindre. Je suis celle qui déborde et que personne n'aborde. Je dépasse de mon jean et ta cape pour compenser, dépasser mes limites, comme ça ce sera réglé. Et tripote, et malaxe, et ça rebondit, c'est marrant, c'est moelleux, c'est douillet, c'est confort, ça rassure. C'est une troisième personne indéfinie, objet. C'est pratique, ça tient chaud, c'est beau madame, c'est bio. 5 kilos dans chaque main, soupesez-moi ces seins. Utile en toutes circonstances, la grosse, la copine moche et sympa. Toujours dispo et à l'écoute, mon faire-valoir de poche. Elle est grosse, elle est moche.
Alors voilà, c'est pour dire que c'est pas toujours facile d'être grosse et que souvent... Souvent, on est un peu la copine sympa, et puis, mais quand même, on nous rappelle assez souvent qu'on n'est pas belle. Et d'ailleurs, pour contrer un peu ça, on a essayé de trouver un peu des références, soit de livres, de chanteuses ou de sites internet qui pouvaient un peu être un peu encourageants là-dessus et nous aider un peu à assumer juste nos corps. Donc moi, j'ai relevé un certain nombre de sites, notamment un site qui s'appelle Pulp Club.com, qui est un site qui répertorie. Alors, il y a beaucoup d'articles. Il y a des articles de témoignages. Il y a des articles sur l'actualité, sur les différents régimes qui tuent finalement. Sur aussi pas mal d'articles un petit peu médicaux, etc. qui permettent, mais dans une optique de être gros, c'est pas forcément grave et c'est pas forcément une maladie, c'est pas forcément quelque chose qui doit se soigner ou se gérer ou etc. Après, il y a un autre site qui est le site du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids qui s'appelle legros.org, qui aborde à peu près les mêmes thématiques, mais j'ai pas eu trop le temps de fouiller sur ce site, j'avoue. Après, au niveau des livres, on a notamment, dans les romans par exemple, on a trouvé un bouquin de Margaret Atwood, qui est une auteure féministe assez reconnue. Un livre qui s'appelle Lady Oracle, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui maigrit, qui perd à peu près 50 kilos à ses 20 ans. Et qui explique un peu comment, du coup, elle met tout le reste de sa vie à cacher qu'elle a été grosse. Du coup, elle s'invente complètement un passé pour oublier cette honte que ça a été pour elle. Un autre roman, Kilos Blues, de Gaëlle Martel, qui est l'histoire d'une fille qui grossit quand elle est amoureuse. Et je crois qu'elle est lesbienne. Bref, mais du coup, moi ça me faisait penser à une copine qui avait perdu 10 kilos et qui m'avait dit que c'était l'amour qui lui avait fait perdre. Et j'avais trouvé ça assez horrible, c'était juste qu'elle avait arrêté de s'alimenter pour plaire à son copain. Sinon, au niveau des BD, une petite BD dont on vous a déjà parlé dans l'émission sur la BD il y a quelques semaines, une BD de Gali qui s'appelle Mon gras et moi, qui retrace assez bien comment est-ce qu'on peut se sentir quand on est grosse, tout le processus de contrôle qu'on met autour de la manière dont on mange, de la manière dont on bouge, etc. Aussi le contrôle sur la manière dont on se perçoit soi-même, c'est-à-dire penser à tirer sur son t-shirt pour être sûr qu'on voit pas son ventre, penser à pas se mettre dans telle ou telle position parce que sinon ça fait des plis, c'est moche, etc. C'est une BD assez sympa, assez drôle, etc. Et du coup, et sinon j'ai aussi entendu parler d'un polar écrit par un médecin. Alors j'ai absolument aucune idée de ce que ça vaut. J'ai juste lu une critique sur internet, j'ai pas eu le temps de me le procurer, mais c'est écrit par quelqu'un qui s'appelle Eric Nataf et qui est un polar qui se passe qui s'appelle Régime Mortel et qui du coup parle justement de ces régimes qui tuent. Après, au niveau des brochures, il y a une brochure qui est disponible sur infocus.net qui s'appelle « Libération et oppression de la grosseur », qui reprend un certain nombre de textes des Amazones, je crois, un groupe de lesbiennes grosses au Canada, et qui compile donc des textes assez intéressants. Sinon, il y a une brochure que j'ai écrite qui s'appelle « Un problème de poids », qui sera un jour peut-être disponible sur infocus.net, qui en attendant est disponible dans toutes les bonnes distros. Et peut-être si vous envoyez un mail sur le blog, je peux vous envoyer un PDF par exemple. Sinon, il existe une autre brochure qui s'appelle Grève de la faim, qui est une petite BD, enfin entre la BD et le texte, et qui pareil est assez sympathique et retrace assez bien une sorte de topo sur c'est quoi être grosse aujourd'hui et comment on s'en sort pour arriver à s'émanciper de ces normes qui nous contraignent. Du coup, maintenant, on va vous faire écouter un petit montage sur le rapport à nos proches et comment souvent c'est pas toujours facile.
Ça m'arrivait vachement au collège. Mmh. À l'époque où je faisais encore du 42 quand mes copines faisaient un 36. Et du coup, elles me disaient « Oh, il est trop bien ton t-shirt et tout, machin, tu me le prêtes ?» Et ou juste... Enfin, ça m'arrive dans d'autres cadres, tu vois, genre où je sais plus qui me dit « Ah, j'ai pas de veste pour sortir, tu m'en prêtes une ?»
Et t'as pas envie de voir ta veste pendouiller sur quelqu'un ?
Aussi, je pense à me faire un truc comme ça, comme ça. Mais aussi un truc de juste me dire « Mais en fait, les gens, ils sont de la peau de sauce devant les yeux, quoi. Ils voient pas que... ils sont fat blind. Ils voient pas que juste on n'a pas le même format de corps et que forcément mes fringues leur ira pas et que la seule chose que je peux leur prêter c'est des chaussettes.
Moi du coup je me sens exclue du groupe dans des trucs comme ça où genre là les copines en ce moment elles font des grands nettoyages d'automne et du coup elles invitent nous chez elles. Et elles nous disent genre tiens vous voulez prendre des trucs et tout machin. Et donc par exemple il y a un moment genre elle sortait sa fringue et tout le monde crie oh elle est trop belle parce qu'elle a des fringues trop belles quoi. Genre des fois les filles, enfin tu vois, on se les laissait, genre elle en prenait une, puis l'autre ah mais vas-y prends ça, j'ai pris la jupe et tout. Et puis des fois je disais oh elle est trop belle, bah vas-y prends-le, sauf que en fait c'était. Bah non en fait, mais si mais tu rentres dedans, mais c'est sûr tu rentres dedans. Bah en fait pas du tout quoi. Et genre même j'ai dû l'essayer quoi. Parce qu'elle me croyait pas que je rentrais pas dedans. Enfin...
Mais parce qu'elles veulent pas assumer que t'es grosse. Et...
Elles le voient pas. Mais.
Forcément.
Je sais. Non, je pense pas. Parce que c'est pas des trucs de gentillesse. Elles le voient pas. Elles pensent que je fais un 40, quoi. Mmh. Et du coup, oui, c'est le même truc de. Genre, tu prends pas de pull, mais c'est pas grave, je t'en prêterai un. Enfin. Bah, non. Elles me filent leur plus grand pull, mais ça doit t'aller. Et puis, je.
Ah oui, je.
Pas rentrer dedans, quoi. Enfin. Et tout le temps, quoi. Et du coup, elles peuvent s'échanger des trucs, elles peuvent partager des machins, enfin...
Moi, les copines qui me disent « Ah, c'est machin qui m'a filé ça, nanana », et qui se font tourner masse de fringues comme ça, à base de prêts ou de... Ou même ce truc de quand tu pars en week-end, de rien oublier, quoi. Parce que sinon, c'est mort.
Ouais.
Et de même, moi, me dire que même chourer un pull à un pote gars, et ben, le pull, il m'ira pas forcément.
Ouais. Ah oui, c'est la honte quand tu rentres pas dans la fringue du pote mec, quoi. T'as déjà épuisé toute l'armoire de la meuf, du coup elle va chercher les pulls de son mec et tu rentres pas dedans.
Je suis allée passer un mois en Espagne avec mes grands-parents l'été dernier et où vraiment je pense que ça allait, que j'étais toute seule. Et du coup ça me faisait un rapport d'être juste une personne parmi d'autres sur la plage ou d'être avec mon grand-père dans un rapport un peu bizarre quoi, mais juste. Et où je me disais, oh là là, mais si j'avais dû être avec des copines, j'aurais eu vachement plus ce truc de me comparer et tout. Et parce que mes copines, bah, elles sont minces, quoi.
Donc, par exemple, moi j'ai passé 4 jours à la mer avec des copines minces.
J'étais vachement dans ce truc, enfin, c'est le groupe de copines là, féministes, où de toute façon, enfin, on était dans un truc, moi j'étais dans un truc, on s'en fout, de quoi, de machin, de truc. Et du coup, j'essayais vraiment d'être dans un truc de pas voir, mais en fait, je pouvais pas voir que justement, en fait, j'avais mes bourrelets et mes énormes nichons et qu'elles étaient juste. Enfin, ouais, voilà quoi.
Trop bien.
Sur les photos de magazine, quoi. Et ouais, enfin voilà, c'était ce truc. Puis en plus, elles étaient bronzées et moi j'étais blanche, quoi. Alors, de fait, ça fait un truc vachement plus. Je sais pas, voilà quoi. C'est de la chair, quoi. Alors qu'elles c'était. Tu vois.
Mais moi, je vois ce truc aussi de juste. À des moments donnés, d'en avoir voulu à des meufs en fait, parce que c'est facile pour elles et de pas considérer ce truc que on est allé se balader, on a trouvé une rivière, on se fout à poil, on va se baigner. Bah non, moi je suis grosse et poilue en fait, et non, je me fous pas à poil, et non, j'en ai pas rien à foutre. En mixité comme en non-mixité, à des échelles différentes, mais quand même quoi, et d'être dans un truc de me dire bah non, moi si je suis pas épilée et que je dois être. Que c'est une logistique en fait de ce truc de la baignade quoi. De se dire bon alors il faudra le maillot de bain, machin, nanan. Alors le maillot de pièce d'accord, mais pas le maillot une pièce parce que sinon ça veut dire que t'assumes pas. Si tu t'épiles, ça veut dire que t'assumes pas. Et d'être vachement dans un truc comme ça à culpabiliser et à culpabiliser de culpabiliser parce que je dois assumer parce que merde je suis féministe.
Ouais, ouais. Du coup c'est encore cellule.
Et où du coup une espèce de cercle vicieux comme ça et de juste de jamais arriver à dire. Même, bah en fait, désolé les filles, mais là, juste, vos corps, ils me gênent, en fait, parce qu'ils me renvoient un truc super violent, et c'est pas facile, et de, à la fois, se dire, eh ben, en fait, c'est cool d'être avec des copines, parce que ça donne aussi un truc, une certaine assurance, et un truc, des fois, de se pousser un peu au cul pour faire des trucs que tu serais pas arrivé à faire, mais d'un autre côté, juste, enfin, des fois, c'est dur, quoi.
Quand quand t'es gros et que tu manges par exemple, machin, les gens souvent ils, tu vois, ils vont pas forcément te le dire, mais tu sens qu'il y a un truc.
Un truc de l'approbation. D'autant plus quand tu manges dans les moments où t'es pas autorisé, en fait. Enfin, où t'es pas, où c'est pas admis, quoi. Moi, souvent je me lève tard le matin, du coup il m'arrive en plein milieu d'après-midi d'être en ville avec un sandwich. Alors c'est pas l'heure du sandwich, c'est l'heure éventuellement du pain au chocolat, quoi que tu devrais te retenir. Et les gens, moi j'ai l'impression que les gens ils imaginent que je suis en train de manger un sandwich pour mon goûter et que c'est terrible quoi. Et qu'il faut pas faire ça. Enfin, ce truc de manger les choses qui sont pas appropriées ou qu'on imagine tout de suite que tu vas manger les plus grandes quantités. Mais c'est aussi lié à un truc genré où moi j'ai bossé dans des restos et j'étais serveuse et clairement on m'expliquait que la plus grosse portion de viande je la mettais au gars. Et que je pense et qu'il y avait vachement un truc comme ça par exemple chez mes parents où mon frère il est plus jeune que moi, c'est un garçon et il est tout sec et il y a ce truc de il faut qu'il mange parce qu'il se dépense, parce qu'il court, parce que machin, mais du coup ça voulait dire que moi quand j'étais au même âge que lui, ça voulait dire que je courais pas dans la cour de l'école, enfin ce qui était pas vrai, enfin du coup ce truc de voir que c'est un garçon donc il se dépense plus, donc il faut qu'il mange plus, et mon frère au contraire on le faisait chier pour qu'il mange plus. Et moi, on me disait, ah non, tu te resserres pas, quoi. Enfin, on me l'a jamais dit comme ça, je pense que c'était plus insidieux, mais.
Ce truc d'interdiction de manger, je le sentais vachement au rue. J'allais souvent manger avec une copine qui est toute minuscule, et on lui faisait des assiettes de frites énormes, et moi, on me faisait des petites assiettes. Et au début, je croyais que j'étais parano, mais ça arrivait plein de fois, et je demandais toujours qu'on me resserre, mais on me regardait bizarre. Et en plus, moi, je demandais pas de viande, sans viande, et du coup, j'estimais... Déjà, j'avais un plus gros corps à nourrir, alors je vois pas pourquoi je n'aurais pas eu plus qu'elle. Et en plus, je mangeais pas de viande, alors j'avais le droit quand même à une ration de frites. Mais on me servait des plus petites assiettes, en fait, que elle, parce qu'elle était petite, alors elle avait le droit de manger beaucoup, alors que moi, j'étais déjà grosse, alors du coup, j'avais pas le droit de manger plus, en fait. Il fallait que je mange moins, et ça semblait assez logique que je mange moins, et alors, si en plus, je prenais de la mayonnaise avec... C'est mal... Enfin, tu sais, sentir un regard social sur ce truc de... Ah ouais, non, mais forcément, si tu fais ça, c'est ta faute aussi, quoi. Tu le cherches.
Ouais, après, je sais pas si ça dépend d'une histoire de format, mais il y a aussi des milieux et des restos, et des types... Enfin, on va dire des types de restos et des types de milieux. Justement, si t'es gros, bah, t'es le bon vivant, t'es le machin, et du coup, on va te servir à fond parce que bah, ça rentre dans la représentation que t'as, quoi, par exemple.
Ta pote anorexique. Vous faisiez des réflexions sur la quantité qu'elle vous fait et tout. Est-ce qu'on lui aurait fait les mêmes si elle était grosse? Je me demande. Je me demande si... Les gens, ils le notent autant, mais est-ce que peut-être ils osent pas te le dire parce qu'ils pensent que c'est un problème? En fait, si t'es maigre, c'est marrant que tu manges. t'as pas un problème. Du coup, on peut faire des blagues dessus. C'est pas grave, quoi. Est-ce qu'on vous fait des réflexions sur le fait que vous bouffez trop, ou est-ce que c'est vous avez juste des paranoïas qu'on vous en fasse?
Non, ça dépend en qui. Je pense ma mère, par exemple. Mais je pense après c'est pas le même rapport. Mais après c'est vrai que dans mes potes, dans les gens que je choisis, disons. Non quoi.
Mais par contre, moi c'est pas parce qu'on me dit rien que j'ai pas l'impression que les gens le voient et qu'ils le jugent, tu vois. Et que c'est un truc de ben c'est pas étonnant si tu manges à ce point-là.
Mais il est hors de question aussi que qu'on fasse des blagues comme ça, quoi. Enfin, moi je suis contente hein, que les gens ils voient que je suis grosse et du coup ils fassent pas de blagues sur ce que je bouffe.
Moi par exemple, j'ai l'impression qu'on me fait jamais de remarques, moi personnellement, sur ce que je mange. Et sur la quantité que je mange, j'ai l'impression que. Mais après, voilà, si ça se trouve, c'est aussi un truc de paranoïa, quoi, tu vois. Mais j'ai l'impression que des gens beaucoup plus fins, s'ils mangent beaucoup, et ben on peut faire une petite blague, quoi.
Oui, mais ça porte pas à conséquence.
Effectivement, il y a des gens qui me font des réflexions sur le fait que je bouffe beaucoup. C'est mes potes d'il y a longtemps, et c'est ceux qui pensent que je fais du 38. Du coup, ils se permettent de me faire des blagues parce qu'en fait, je suis pas grosse. Dès qu'ils savent que je suis grosse, que je me vois comme grosse, que j'ai fait des régimes, ou un truc comme ça.
Donc voilà, c'était un petit montage sur le rapport à nos proches et comment ils nous voient, comment on vit, la manière dont ils nous voient. Et moi notamment, j'aimerais bien parler de quand justement j'ai sorti ce texte-là, cette brochure. Avant, disons que j'ai vaguement essayé d'en parler à une ou deux copines qui n'ont pas trop réagi, un peu par peur, je pense. Mais j'ai clairement constaté que quand j'ai sorti le texte maquetté, enfin avec une jolie couverture, tout ça, je l'ai distribué assez allègrement. Et les gens qui sont revenus me voir pour en parler, et où ça s'est passé d'une manière assez fluide, c'était les gens... avec qui j'avais une certaine confiance, mais qui, disons, n'étaient pas mes amis de toujours, ou qui n'étaient pas des gens que je connaissais depuis des années, avec qui j'avais un rapport intime, etc. Et justement, les personnes avec qui ça a été difficile de parler, c'est justement les gens avec qui j'avais ce rapport intime, à qui j'avais vraiment l'impression d'avoir menti pendant... Pendant des années, quoi, d'avoir juste joué un rôle, d'avoir porté un masque, etc., et de devoir dévoiler, des choses ou des souvenirs qui pouvaient apparaître comme des moments de faiblesse, etc. Et du coup, c'était assez dur d'arriver à exprimer tout ça et d'arriver à me sentir forte là-dedans. Et du coup, moi, j'ai eu l'impression que vraiment, ça a changé un peu cette question. Enfin, après, j'en ai beaucoup plus parlé, disons, avec des gens qui m'étaient moins proches, et avec les gens avec qui me sont plus proches, ou avec le gars avec qui je couche, ou avec mes super copines. Et ben, c'est beaucoup moins facile, encore maintenant. Et du coup, voilà. Toi, tu voulais dire quelque chose ?
Moi, je voulais dire que j'ai participé à ce week-end de grosse, bien que je ne sois pas grosse. Et oui, bon, ça a été un peu bizarre parce que c'est étrange de parfois... Enfin, ça arrive jamais de se sentir pas à l'aise parce qu'on n'est pas assez grosse. Du coup, ça, c'était une chouette expérience. Mais je tenais à dire que je revendiquais pleinement ma place dans ce week-end parce que... parce que je considère que être grosse, ça veut pas, ça se pèse pas. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du vécu et de l'ordre de quelle sociabilisation on a eue. Et moi, par exemple, depuis toujours, que ce soit ma famille, mes partenaires, mes amis ou même des gens qui me sont moins proches, je passe tout mon temps à me prendre des réflexions sur mon poids, sur la façon dont je mange, le fait de me cacher quand je mange plus. Le fait que les gens tirent sur mon t-shirt pour cacher mes bourrelets ou des choses comme ça. Je voulais aussi parler du fait que, bah, par exemple, ça m'est arrivé de passer du temps avec des amis féministes du milieu libertaire. Et que c'était vraiment très très dur de constater que j'étais obsédée par le fait qu'elles étaient toutes, mais vraiment toutes, absolument hyper minces et vraiment magnifiques, magnifiques, normées quoi. Et que du coup ça pouvait être vraiment très désagréable de voir que ben voilà, moi je suis pas aussi normée qu'elle, que moi j'ai des bourrelets, que moi passer toute ma journée toute nue avec elle, et ben c'est pas possible, juste je suis obligée d'aller me cacher pour pleurer. Et que du coup vivre dans un entouré de féministes libérées, ben en fait je me rends compte que c'est une injonction à être libérée et décomplexée. Et du coup, on se sent... En fait, c'est très dur d'assumer qu'on n'assume pas, en fait. Ben oui, voilà, moi, j'assume pas que je suis pas normée. Voilà. Alors, je sais pas comment dire.
C'est un peu culpabilisant, quoi.
C'est ça.
Et voilà, et maintenant, un nouveau texte issu de nos ateliers d'écriture.
Le juste milieu, la modération, c'est pas pour moi. J'existe trop et trop peu. Je prends trop de place et je suis insignifiante. Pareil pour ce que je mets dans mon corps, dans mon ventre. Je mange trop, je me baffre, j'indigeste. Ou pas assez, je me prive. Vertige. Comment faire ? Je veux tricher, je veux mentir. Quel lien entre mon corps et mon ventre ? Aucun. Je prends trop de place parce que je suis grosse, mais personne ne me voit. Je ne sais pas qui je suis ni ce que je vaux. Rien à défendre. Je m'efface, je rétrécis, discrète, transparente et ronde. Ronde, je tourne en rond, les rondeurs. Horreur, je tourne en rond dans ma tête et tout est rond. Ma tête, mon ventre, le cycle continu de ces questions idiotes. Je déteste les rondeurs. Le milieu, ça existe ? Le centre, l'harmonie, le modem, le compromis, connerie. Mais qui m'a pourri la cervelle à ce point ? Tu sais quoi, je suis parano. Parce que je ne suis jamais bien où je suis. Toujours la question de la culpabilité, l'obsession. Faire du bien, et forcément ça rate. Trop ou trop peu, l'excès, l'insuffisance, la surenchère, la peur. Je suis toute bloquée, au point que même à l'intérieur de moi, il n'y en a pas de centre, de milieu, rien de posé, une boule d'angoisse qui roule dans ma poule, dans la foule des questions à la con. Je suis parano parce que mon corps ne m'oublie jamais. Il me rappelle tout le temps quand il n'a pas la bonne forme et quoi que je fasse, c'est mal, c'est raté. Et je flippe 24 sur 24. Chaque regard me juge, chaque geste me condamne. N'importe quoi. Imagine, je parie que tu serais parano pareil. Saboter la mythologie du milieu, de la modération, de la norme en demi-teinte. Je reprends mon souffle, inspire une grande bouffée. Comme si, avec moins... J'en baverai moins. Trop ou beaucoup ? C'est moi, je suis là. Je cherche une issue.
Et voilà, et maintenant pour prolonger ça, et ben on a un petit montage sur justement les rôles sociaux et les personnages ou les stratégies qu'on a créées pour arriver à survivre en étant grosse.
Est-ce que la grosse est joviale ?
Je sais pas si c'est forcément un truc de jovialité, mais un truc... de force un peu. Bah, en fait, ça dépend. Moi, j'ai l'impression qu'il y a. J'ai l'impression qu'il y a deux types. Celles qui se cachent le plus possible et qui se font le plus petites possible. Et qui, du coup, parlent pas trop, prennent pas trop de place, tout ça. Et celles qui se créent plus un personnage, quoi. Il y a la grosse qui se cache et puis celle qui se construit plus un personnage. Enfin, moi, j'ai clairement l'impression d'avoir fait ça, en fait, d'avoir construit un personnage à balle. Et d'avoir vachement du mal à en sortir dans un truc, de chercher des trucs de reconnaissance en fait. Parce qu'il y a un système hétéro-patriarcal, on va dire, et que juste dans ce système, la reconnaissance des filles, elle se fait par un truc physique. Et où moi je rentrais pas dans ce cadre. Et du coup, à chercher autre chose. Du coup, ça voulait dire être drôle et pétillante, toujours là quand il y en avait besoin, solide. Faire régner la terreur des fois. Voilà, et en fait, je trouve ça super dur d'arriver à se détacher de ces trucs-là et d'avoir mis en place tout un tas de trucs pour que ça se remarque pas, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, quoi, pour que ça se remarque pas, pour qu'on remarque d'autres trucs.
Bon, en fait, si j'y réfléchis, y a des trucs qui s'entrecroisent. C'est pour contrer différents trucs que j'ai monté ces trucs de personnalité-là. Par exemple, le truc d'être forte, maintenant je me rends compte que c'est un truc de grosse. Mais il y avait aussi ce truc de... J'avais une histoire familiale compliquée, et puis j'étais pauvre, et tout ça, dans un endroit où tout le monde était riche et dans une super famille. Et donc, de toute façon, j'avais le rôle de la pauvre petite orpheline, un truc comme ça. Donc il y avait aussi ça, d'être... forte, machin. Peut-être drôle, un truc de toute façon, avoir de l'humour, c'est un truc de minorité. Donc est-ce que c'est un truc de classe ou un truc de genre ou un truc de j'étais grosse, je sais pas trop. Mais du coup c'est lié quoi. Et ce truc d'être grosse et de prendre trop de place et d'être au centre des trucs, du coup d'être au centre par la parole et tout machin aussi. Si c'était que par rapport à être grosse, est-ce que je me serais pas plutôt planquée parce qu'on me disait déjà que je prenais trop, enfin parce que je prenais déjà trop de place physiquement.
Mais oui, je sais pas, aussi à un moment tu peux pas te cacher alors tu joues le tout pour le tout. Enfin, moi j'essayais de me cacher sous des gros pulls ou dans des coins. Et puis à un moment je. Tu sais, en fait, comme t'es grosse, ça se voit que t'es là. Du coup, je suis devenue grosse aussi. Au lieu de pas exister, exister fort autrement que grosse. Un truc qui marquait fortement une identité avec des fringues de toutes les couleurs, des tresses, des foulards dans les cheveux, je sais pas.
Oui, moi aussi, je me suis mis à porter des fringues complètement extravagantes.
Moi, j'ai l'impression aussi d'avoir juste... d'avoir développé une espèce de sens de l'écoute et de l'analyse assez fort, je pense. Parce qu'il y avait plein de trucs dont je pouvais pas parler. Quand, au collège, la préoccupation, c'était tel ou tel pantalon, tel ou tel gars, tel ou tel 500 grammes que t'as pris ou pas. Et ben du coup, c'était des trucs où je me mettais un peu en retrait et je parlais pas. Et du coup, j'ai développé un truc. Enfin, j'ai pas une sorte de truc où j'ai développé des trucs de fou pour arriver à faire parler les gens. Ou au final, eh ben, c'est la psy du groupe. À parler vachement avec les gens, à faire parler vachement les gens. Et où du coup, moi j'ai l'impression que ça crée un rapport qui est complètement biaisé. Toi, tu cherches à exister par ça, mais en même temps, du coup, t'es relégué à l'écoute. Ou c'est un rôle qui existe pas vraiment.
Pendant longtemps, je pensais un peu comme ça, mais toujours, j'ai remarqué qu'en fait, des fois. Il suffit que tu arrives dans un train, bah, tu vois, les gens ils te connaissent pas. Tu vas venir avec plein de fois, les gens, ça, moi tu vas venir parler. Et je l'ai relié directement au fait que j'étais rose, mais plus dans le sens le roux est gentil. Tu vas pas envoyer chez des gens et t'es sympa. Sur ce truc là, ça me paraissait assez visible. Ouais.
Est-ce qu'il y a un truc de genre, un truc de. C'est la mama, c'est un truc maternel?
Ouais, c'est clair. Les gens ils disent, hein. Ouais, ça fait que t'es pareil.
Mais moi,
ça,
par exemple. Enfin, ces identités-là de la grosse rigolote, la grosse forte, quoi. Et ben moi, j'ai l'impression que mon image que j'avais au collège, par exemple, et au lycée, et ben c'était la grosse neune.
Mais est-ce que tu t'es. C'est plus pratique pour toi d'être plutôt neune que grosse?
Ah, je l'ai choisi, hein.
Non. T'as pas choisi de jouer avec ça ou...
Non. Mais neune, mais vous voyez, dans le sens pas maligne, quoi. Que je pense en classe, j'étais bonne et tout ça, mais du coup, vraiment pas maligne. Après, je pense que j'avais aussi cette image de forte où on m'appelait Rambo. Alors, je pense que j'avais quand même cette image de forte là, de la personne qui peut vraiment taper quelqu'un.
Bah, je pense que dans ce truc de la force, il y a deux trucs. Il y a la force psychologique, parce que je pense que les gens ils projettent quand même un truc de ah, ça doit pas être facile de vivre comme ça. Et je pense qu'il y a aussi un truc vraiment, cette espèce d'image de bulldozer. Là. Que ce truc, oui, la grosse est un bulldozer. Parce que t'as plus de bras que les autres, t'es censé savoir cogner. Ce qui est pas vrai. Bah, en fait, c'est bizarre, j'ai l'impression que en fait, tout est un peu ambigu ou ambivalent, ou je sais pas. Que d'un côté, il y a un truc de. On suppose une certaine forme physique, et de l'autre côté, on suppose une certaine mollesse. Un truc de gens qui se laissent aller et qui ont que du gras et plus de muscles. Et que du coup, je pense qu'il y a les deux trucs qui peuvent exister. Pas forcément de manière complètement dissociée.
Moi, plutôt que neuneu, il y a maladroite. La grosse est maladroite, quoi. Je le suis beaucoup plus maintenant qu'avant. Mais j'ai toujours cette impression d'un éléphant, quoi.
De quoi?
J'ai l'impression d'être un éléphant quand je fais un truc maladroit. Genre l'image de l'éléphant dans le magasin de porcelaine, voilà. Alors qu'il y a des fois, je suis maladroite, ça n'a rien à voir avec l'espace que je prends. Des fois oui, genre quand tu te cognes, des machins comme ça, enfin... Mais des fois c'est pas lié, genre je renverse une tasse, voilà. Et ben dans ma tête, c'est parce que je suis grosse. Et c'est un truc...
J'ai l'impression que c'est un truc d'avoir lâché l'affaire, en fait. C'est une façon de vendre de partout. Moi, dans ma vie, j'ai l'impression d'avoir mis plein d'années à essayer de rentrer dedans, là. Alors autant dans les jeans que dans... pas tout renverser sur ton passage, pas douter n'importe comment et tout, et que hop, en fait ça déborde et des fois j'ai l'impression que j'ai laissé tomber, ça déborde dans tous les sens.
Du coup ça me fait penser à cet autre stéréotype
de ouais, la copine grosse qui ce truc de la copine, elle est un peu nulle, elle est un peu là en faire valoir et tout, du coup elle suit quoi. Elle suit derrière. Et que j'ai été à un moment, genre plutôt, avant de commencer à parler très fort et à mettre des vêtements de couleur, j'étais plutôt. Je n'osais pas me mettre des trucs à la mode. J'étais habillée un peu comme ma pote, mais en plus cheap. La même, mais en moche, quoi. Des fois, on confondait mon prénom, mais elle était bonne. Donc, un truc un peu de grosse suiveuse derrière, comme ça, qui fait tout dans l'ombre d'eux, sauf que. Non, vous avez ce stéréotype-là aussi?
Oui. Moi, ouais, j'ai du mal à voir les gros comme ça, mais peut-être ouais. Mais ouais, non, j'ai... enfin, moi, j'ai du... enfin, je sais que dans les films, ça arrivait des films où il y a des personnages gros comme ça. Et à part dans les films, j'avais. Enfin, à chaque fois, ça me surprend ce personnage gros qui suit, qui veut imiter ou machin, parce que. J'ai l'impression de l'avoir jamais croisée.
Du coup, est-ce que la grosse est la chieuse?
Je crois que justement, la grosse, elle est sympa, quoi. Je sais pas forcément, en fait, ça me paraît. J'ai l'impression que déjà, rien dans la salle, on a dit tellement des choses tellement différentes que. Parce que toi et moi, on fait partie des terreurs un peu.
Oui, mais à l'écoute. Tu dis terreur, mais à la fois, tu dis tout le temps à l'écoute.
C'est une manière de contrôle. Hein. Les gens ils viennent, ils parlent, ils t'écoutent, ils viennent se protéger derrière toi. C'est quand même, il y a quand même des gens qui font ça. Qui... Après, moi j'ai ce truc, un truc de confiance dans la vie en règle générale. De par ce que j'ai vécu, je pense que j'apprends pas à avoir confiance très facilement. Le truc, je viens d'un milieu super pauvre, super trash. Et que, voilà, moi j'ai. Je pense que dans ma vie j'aurais aimé suivre des gens, être la suiveuse. Peut-être même j'aurais aimé être la neuneu parce que moi j'avais pas la possibilité d'être ça. Quoi. C'était tu te bats et tu te bats chez toi et tu te bats dehors et tu mènes une histoire quoi. T'as aucune autre chose sur vous. Donc voilà. Et j'ai fait ça. Et du coup, les gens ils venaient derrière, ils venaient pas devant. C'était, les gens qui étaient devant, c'est parce que je le voulais bien. Mais... Ouais voilà, du coup je sais pas à quoi je relis chaque élément de. Est-ce que effectivement le fait d'avoir le côté maman de. J'en sais rien. Puis pour tout dans la vie, tu vois, est-ce que les histoires de relations humaines ou amoureuses, on va dire, ou affectives ou machin, est-ce que c'est parce que t'es gros ou est-ce que c'est parce que tu supportes. Enfin, tu vois, t'as un rapport au contact qui est différent. Je sais pas si c'est parce que je me suis mangé des trucs graves dans ma tronche quand j'étais gamine. Est-ce que ça a pas changé mon rapport au contact? Il y a des chances quand même. Mmh. Alors, enfin, tu vois, du coup, est-ce que c'est parce que je suis grosse ou est-ce que je suis devenue grosse? J'en sais rien. Enfin, je trouve compliqué d'arriver à relier des choses comme ça. Enfin, j'ai du mal à dire. C'est être grosse. Enfin, être gros, on a des conséquences à ça. Il y a des conséquences à ça. Les gens, ils réagissent de telle ou telle manière, machin. Mais est-ce que enfin, les causes de ce truc-là, j'ai du mal à...
En fait, moi, j'ai l'impression que t'as plein de choses qui sont imbriquées entre les histoires personnelles en tant qu'individu, en tant que les différents systèmes de pression, etc. Et que tout ça, ça s'imbrique. Après, moi, j'ai l'impression de voir des trucs qui sont un peu caractéristiques de ça. Après, je veux bien admettre une certaine paranoïa. Voir aussi que de toute façon, ce rôle de la maman, là, c'est aussi un rôle de meuf.
Oui, c'est ça.
Par exemple, que du coup, et que ça va avec, et que. Et moi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, que juste c'est un truc que, bah, d'un côté, j'ai l'impression que les gens m'y renvoient, mais d'un autre côté, j'ai l'impression aussi que c'est un créneau que j'ai plus ou moins choisi. Après, c'est quoi, quelle marge de manœuvre t'as dans le choix? Bon, bah voilà. Mais après, moi, j'ai pas envie de me définir uniquement comme grosse. Enfin, c'est une composante parmi d'autres, et du coup, et j'ai pas non plus envie de dire que moi, les stratégies que j'ai trouvées ou ce que je décris comme étant pour moi caractéristique du fait d'être grosse, je pense que c'est valable pour un certain nombre de personnes. Après, il n'y a pas que ça, c'est évident, enfin, il y a plein de gens qui ont d'autres cours, en fait, je dirais. Et après, un truc où moi j'ai l'impression d'avoir un. Une espèce, je me reconnaissais un peu dans ce que tu disais tout à l'heure, ce truc d'un côté de pouvoir être sympa, à l'écoute, etc. Et d'un autre côté, de pouvoir être juste.
Ouais.
Si je veux, je te détruis.
Ouais,
c'est ça. Mais bon, je pense que c'est encore un truc à la fois de contrôle et à la fois d'asseoir une position. De juste tenir les gens en respect, quoi.
peut-être pas de contrôle, mais de pouvoir, enfin, je sais pas, peut-être de... Je sais pas.
Mais ça donne du pouvoir dans la mesure où toi, tu te donnes le pouvoir de pas être là quand tu veux pas être là.
Non.
Je veux dire, je sais pas si tu veux
manger. Quand je peux pas être là, je dors pas. Je fais tout.
Mais justement, ça donne... C'est bidon comme pouvoir.
C'est quoi?
En fait, c'est bidon comme pouvoir. Tu peux faire chanter personne avec ta présence. De toute façon, t'es obligé d'être là.
Non, tu peux faire chanter personne avec ta présence, mais du coup, tu deviens un passage obligé.
Oui, c'est toujours...
Parce que du coup, t'es toujours là. Et du coup... En fait, c'est tordu parce que ça part de tout un truc de bonnes intentions, et moi, j'ai pas envie de me dire que je manipule les gens alors que je parle, quoi. Enfin, c'est pas... Après, je pense, voilà. Et moi, j'ai eu l'impression sur ce truc de fort ou faible, j'ai eu l'impression à plein de moments d'avoir tellement cette image de personne forte que de m'être sentie faible ou seule dans des groupes et de juste pas être arrivée à le dire en fait, ou pas assez fort ou pas entendu.
Moi là où je vois que ça peut être pourri, c'est ce truc là de rôle aussi hyper défini que. D'être toujours là pour porter les gens et le jour où... et du coup d'avoir l'image de quelqu'un qui est vachement fort et qui a de quoi en fait porter les gens et que en fait c'est pas toujours vrai.
Ouais.
Que des fois c'est pas vrai, qu'on n'a pas la force de porter les gens même si tout le temps on les porte. Et que aussi des fois il y a besoin que ça aille dans l'autre sens et on a besoin d'être porté. Et que moi je vois aussi comment. Et c'est là où moi je vois qu'il y a un truc de pouvoir qui existe dans. Un truc. Qui porte qui et du coup qui est prêt à porter qui et comment dans des trucs de mal-être, de tristesse ou de besoin de soutien quoi.
Ouais, puis aussi c'est facile pour les gens de dire tu vois vu que toi tu parais fort et que t'es tout le temps là et que machin ceci cela, que les gens ils ont l'impression ou que c'est facile aussi pour eux de se dire qu'ils sont pas capables de te soutenir de la même manière que toi tu l'as fait pour eux quoi. Enfin, c'est facile aussi de dire « Ah ouais, mais moi, je peux pas faire ça. »
Et oui, ce truc de se faire lâcher quand c'est toi qui as besoin d'être porté, moi, ça m'est arrivé aussi sur plein de trucs, quoi. Genre « Ah là là, mais là, c'est trop lourd. Je peux pas. Ah, désolé. » Dans des trucs qui étaient effectivement peut-être plus lourds que leurs histoires à elles, mais en fait, pas vraiment forcément. Et puis, genre un truc de flip total.
Et je pense que c'est un truc de remettre en cause le schéma, quoi. Tu sors ton rôle, il y a les implications qui se cassent la gueule en fait. Tu peux pas faire ça.
Vous êtes toujours sur Dégenré, l'émission féministe pour déranger, sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Vous venez d'entendre un montage qui parle des rôles qu'on peut endosser pour mieux vivre notre condition de grosse. Et je voulais parler de l'affiche annonçant ce week-end de l'énorme qui était collée un petit peu partout dans la ville de Grenoble. Et moi, on m'a fait des retours en me disant « Mais en fait, cette grosse fille nue là, sur cette affiche, il y a un problème parce qu'elle est trop belle. Elle a l'air trop heureuse, trop épanouie. » Ce qui veut dire que, effectivement, quand on est grosse, inévitablement, on doit être moche. Et à ce propos, je pense à ma mère qui me croit pas quand je lui dis que moi, je suis très heureuse de mon poids et que je vis très bien ça. Elle me croit pas. Elle me dit « Ben non, tu mens. Tu peux pas être heureuse d'avoir ce poids-là. Tu peux pas être bien dans ton corps, c'est pas vrai. »
Et en parlant de mère, et ben moi je me suis rendu compte que justement souvent l'image des femmes grosses, alors dans ces cas-là on dit pas grosses, on dit avec des formes. Du coup les images de ces femmes-là qui sont qu'on trouve belles, c'est souvent des images associées à la fécondité, à la mère nature, etc. Et où justement je me rappelle d'une espèce d'un cours de lettres en terminale L, un truc horrible quoi, où on nous avait expliqué que dans tel roman il y avait un personnage qui était grosse et où la prof nous expliquait que justement elle était à la fois bien ancrée dans la terre parce qu'elle était lourde et décrite comme un personnage un peu aérien et que du coup elle était en communion avec les éléments, enfin une espèce de truc complètement tirée par les cheveux. Et où, voilà, on nous expliquait que être grosse, c'était... Et justement, elle avait toute une ribambelle d'enfants, ce personnage. Et que du coup, être grosse, c'était bien la fécondité, la mère nature. Et dans ce cas-là, ça pouvait être beau. Voilà.
Gaïa ou Pachamama.
Et on voulait parler aussi des luttes aux États-Unis, qui sont beaucoup plus répandues en France, des luttes pour l'acceptation de soi, pour l'acceptation de son poids, etc. Alors on veut bien avouer ne pas être très renseigné sur la question, mais en tout cas, il existe plusieurs luttes qui sont notamment... il y a quelques textes traduits et référencés sur le site... Pulp Club dont je parlais tout à l'heure.
On va vous parler de l'agenda féministe de ces prochains jours. Alors, je peux vous parler de la pièce de théâtre qui se joue à Antigone vendredi soir, qui s'appelle Dilemme et qui est issue d'un travail entre une compagnie française qui s'appelle Les Féroces et d'une compagnie haïtienne qui s'appelle Totobé. Donc, c'est 8 femmes qui présentent une pièce qui s'appelle Dilemme. Et bah justement, comme on parle de la grosseur, les haïtiennes en question qui font partie de cet atelier de théâtre, elles ont un tout autre rapport à la grosseur et au poids. Et du coup, elles ne comprennent pas quand on leur dit qu'ici, être grosse est associé à être moche ou à être en mauvaise santé. Elles m'ont expliqué que pour elles, c'était vraiment tout le contraire.
Et aussi, on vous rappelle que, justement, la bibliothèque féministe existe toujours au 5 rue Bergson, à la Capuche, à Tram C, Gustave Rivet. Les permanences sont le jeudi à le jeudi de 16h à 20h, tous les jeudis, en non-mixité, sauf le premier jeudi du mois, où c'est en mixité. Et petit rappel, Antigone, c'est 22 rue des Violettes, à Grenoble.
Une petite précision aussi, ce jeudi-là, c'est-à-dire demain à 16h, il y a à la bibliothèque rue Bergson une copine qui va nous parler d'un livre sur la prostitution.
Et aussi, justement, tout à l'heure, on vous parlait de brochures, etc. Et alors, c'est toujours possible de s'en procurer une grosse partie sur... Infocus.net, mais il y a également un infokiosque à la bibliothèque féministe, il y a aussi un infokiosque au local autogéré. Souvent pendant les événements féministes, c'est possible de trouver des infokiosques féministes à Antigone. Et il y a une table qui tente d'être tenue régulièrement à la fac, qui normalement est tenue le lundi de 12h à 16h. Alors, ça dépend ça dépend un peu de nos disponibilités et du temps qu'il fait souvent, mais voilà, on essaye d'être là. Et en parlant d'infokiosque, il y a aussi un infokiosque à un nouveau lieu qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, qui est le 56 rue Docteur Lhermitte, où, encore une fois, les brochures sont disponibles. Et donc, on va conclure avec un dernier texte. Et moi, je voulais quand même en profiter pour saluer et dire merci à toutes les filles qui sont venues participer à ce week-end autour de la grosseur et à toutes celles qui nous ont filé des coups de main, se rendant bien compte que de toute façon on n'était pas si nombreuses que ça et qui du coup nous ont fait à manger et nous ont dorloté pendant tout le week-end. Voilà, donc le dernier texte.
Chère preuve, chère mère meurt, chère doc provoque. Vous ne comprenez rien, détruisez tout, n'écoutez pas. Vous heurtez, blessez, bouclez. Normée, fermée. Vous faites de moi cette femme au fait du toit, bloquée. Vous faites de moi cette femme enfermée, ferme, fermée, faible. Femme dans cette ferme, enfermée, enfoncée dans la forêt. Pas la ferme des célébrités, non mais la ferme des célébrités, ça. Mais là, ferme ta gueule, le calcule ton poids, le calcule ta tête, à tête avec la balance, le miroir, et ferme ta gueule. Je suis juste en train de me préoccuper de toi, ma chérie, pour ton bien, ma chérie fourrée au chou à la crème épaisse. Je m'affaisse, ferme ta gueule, pour ton bien.
calcule ta surcharge pondérale, ta surcharge de pondeuse, perdue, pendue dans la penderie de cette ferme, la gueule fermée si ça continue. Chère mère soupir, prof satire, doc subir, le diagnostic médic j'applique, rien du tout. Arrête de me dire que ça va bien. T'as perdu du poids, non ? Arrête de me dire que ça suffit, t'as assez mangé que ça suffit. Ça suffit, suffa, facile, pas facile, vous dire écrire, stop tout, lâche-moi mon poids, lâche-moi toi. Lâchez-moi, je m'enfuis, gueule ouverte, alerte, j'arrête dans le gosier, l'arrête plantée dans votre cœur sec, meurs, j'arrête. J'arrête de dire oui dans mes silences, absence, doléance. Stop, colère, stop.
Et voilà, et pour finir, un petit morceau de musique. Du coup, ce sera Les Reines Prochaines avec un titre qui s'appelle The Lady is Angry.
Cookies with some jam on top, and yogurt with oats and ham beside, 2 eggs of chicken and bacon with fat. Thank you.
Wesh, wesh, spéciale dédicace à la rougeole.